On lit pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi
les as de l'info. Cinq bonnes nouvelles pour la planète. Un texte de Clémence Tessier-Laliberté, paru le 7 janvier 2025 dans Les As de l'Info. Parfois, quand on pense aux défis liés au réchauffement climatique, il est facile de se sentir découragé. Il faut se rappeler que, chaque jour, des groupes continuent de militer pour sauvegarder l'environnement et des progrès importants se réalisent. Aujourd'hui, pour bien débuter l'année, j'ai envie de te présenter cinq bonnes nouvelles pour la planète qui se sont produites en 2024. Le Royaume-Uni dit « goodbye » au charbon. Durant la dernière année, le Royaume-Uni a fermé sa dernière centrale au charbon. C'est un moment important, car ce pays a été le premier à utiliser cette ressource pour produire de l'électricité. Le charbon est mauvais pour l'environnement parce que, lorsqu'il brûle, il libère des gaz polluants. Avec cette avancée, le Royaume-Uni devient le premier pays du G7 à fermer complètement ses centrales à charbon et prendre un virage plus vert. Les saumons sont de retour dans la rivière Klamath. Après 100 ans d'absence, les saumons sont revenus dans la rivière Klamath entre la Californie et l'Oregon aux États-Unis. Comment ça? Grâce au retrait de 4 barrages hydroélectriques qui bloquaient le passage qu'empruntaient les saumons pour remonter la rivière. Cette initiative a été dirigée par la tribu autochtone Yurok qui a travaillé très fort pour rétablir la santé de la rivière. À la suite des travaux de démolition des barrages, des biologistes ont confirmé que les saumons étaient de retour bien plus rapidement que prévu. La déforestation de l'Amazonie ralentit. En 2024, la destruction de la forêt brésilienne en Amazonie a diminué. Les scientifiques ont constaté son niveau le plus bas depuis 9 ans. La forêt amazonienne est essentielle pour l'environnement parce que ses arbres aident à absorber les gaz à effet de serre, en plus de produire une grande partie de notre oxygène. Cette bonne nouvelle démontre que les efforts pour protéger cette forêt peuvent fonctionner. Le président brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, s'est engagé à éliminer la déforestation de la forêt amazonienne d'ici 2030. La nature fait reconnaître ses droits. De plus en plus d'endroits dans le monde reconnaissent la nature comme une entité légale, c'est-à-dire comme des êtres vivants, avec des droits. C'est le cas, entre autres, des montagnes du parc national d'Egmont en Nouvelle-Zélande et d'une partie de l'océan au Brésil. Pourquoi faire une chose pareille? Parce que c'est une façon de conserver la nature. On lui donne le droit d'être protégée et défendue devant la loi. Savais-tu que la rivière Magpie au Québec est aussi considérée comme une entité légale? Une espèce rare d'antilope est sauvée de l'extinction. Au Kazakhstan, un pays d'Asie centrale, la population d'antilope saïga est passé de 20 000 en 2003 à 2,86 millions aujourd'hui, 21 ans plus tard. Si cette espèce d'antilope a échappé à l'extinction, c'est grâce à une initiative qui se nomme Altindala. Il s'agit d'un partenariat entre plusieurs groupes qui militent pour sauver la biodiversité du pays et le gouvernement du Kazakhstan. Cette nouvelle démontre que les efforts de préservation peuvent avoir un réel effet pour protéger les animaux et leur environnement. D'ailleurs, une revue réalisée cette année sur 665 projets de protection à travers le monde, a révélé que 2 initiatives sur 3 ont réussi à ralentir ou à inverser la perte de biodiversité. Encourageant, non? Toi, qu'est-ce qui te donne envie de faire des efforts pour protéger la planète? Pour ou contre les résolutions de la nouvelle année? Un texte de Mélanie Loubert, paru le 6 janvier 2025 dans les As de l'Info. Bienvenue en 2025, chers As. Pour beaucoup de personnes, le début d'année est synonyme de résolution. Faire plus de sport, manger mieux. Question de commencer l'année du bon pied. Moi, je commence toujours janvier avec une petite liste de résolutions réalistes. Ça me permet de réfléchir aux mois qui viennent de passer et de planifier les prochains. Cependant, les résolutions ne sont pas aussi populaires auprès des autres membres de l'équipe des As. Alors, est-ce qu'on se met trop de pression avec toutes ces promesses? Qu'est-ce qu'une résolution? Une résolution, c'est une décision qu'on prend après avoir bien réfléchi. Le temps des fêtes est souvent l'occasion de repenser à l'année qu'on vient de passer. Ça permet de voir ce qu'on aimerait améliorer dans le futur. Ça peut être des actions pour améliorer notre comportement, nos habitudes ou notre mode de vie. Certaines personnes s'engagent à plus économiser, à faire un voyage qui leur tient à cœur ou encore à passer plus de temps de qualité avec leurs amis. C'est souvent une démarche très personnelle qui nécessite de se poser plusieurs questions. Prendre des résolutions. Est-ce une idée judicieuse selon toi? Le côté pour. C'est motivant. Commencer l'année avec de bonnes résolutions, ça donne l'impression de commencer un nouveau chapitre de notre vie où on se promet d'être une meilleure personne. Ça permet de réfléchir à ce qui nous rend heureux et à la personne qu'on veut devenir. Ça veut dire qu'au moins une fois par année, on s'arrête et on se pose des questions sur nous-mêmes. Ça permet d'évoluer en tant qu'humain. Ça permet de se donner des objectifs. Comme au travail ou à l'école, se donner des objectifs réalistes et sains et permet d'avancer plus vite. Tout ça dans le but de se rapprocher de la personne qu'on veut être plus tard. Même si on ne réussit pas à tenir une résolution toute l'année, on aura essayé quelque chose de nouveau. C'est comme ça qu'on apprend dans la vie avec des essais-erreurs. On pourra toujours réessayer l'année d'après un peu différemment. De côté contre, ces bonnes résolutions ne durent généralement pas très longtemps. Il ne suffit pas de les écrire dans un cahier pour qu'elles se réalisent. Ça demande souvent de la patience et de la persévérance, ce qui peut être difficile dans le tourbillon de la vie. Ça peut faire baisser la confiance en soi lorsqu'on n'arrive pas à tenir nos résolutions. C'est décevant de briser une promesse qu'on s'est faite à soi-même. Pas besoin d'attendre le 1er janvier pour essayer de changer. Lorsqu'on a envie de modifier un aspect de notre vie, il est possible de le faire à n'importe quel moment, c'est moins de pression. Les entreprises profitent souvent de la période des résolutions pour faire de la publicité qui vante leurs produits. Par exemple, puisque beaucoup de personnes prennent la résolution de faire plus de sport, les gyms vont multiplier les stratégies marketing pour les attirer chez eux. Alors, es-tu pour ou contre les résolutions de la nouvelle année? Son métier? Faire des méga-créations en blocs de construction. Un texte de Camille Lopez, paru le 3 janvier 2025 dans les As de l'Info. Aux As de l'Info, on adore parler à des gens qui ont des carrières hors de l'ordinaire. Aujourd'hui, je t'invite à rencontrer Gilles Maheu, un architecte des blocs de construction. Armé de ces blocs, Gilles reproduit des villes, des bâtiments, des châteaux fantastiques et des personnages bien connus. Le résultat? Une ville géante de construction miniature qui s'appelle Ludovica Miniland. On peut la visiter à Québec et admirer son travail minutieux. Allô, Gilles? Je te trouve très chanceux de jouer avec des blocs de construction tous les jours. Comment est-ce devenu ton travail? C'est un vieux rêve de jeunesse. À 9 ans, je reproduisais des bâtiments et des villes en carton dans ma chambre. J'ai longtemps travaillé en construction. Et un jour, alors que j'étais tanné de voir mon fils de 14 ans jouer à l'ordinateur, j'ai décidé de lui acheter des blocs. Je lui ai dit que je l'aiderais à reproduire des villes. Et finalement, je me suis fait prendre au jeu. C'est moi qui construisais. Après un bout de temps, notre sous-sol était rempli de petites villes. Et en 2010, je me suis dit, j'ai toujours rêvé de présenter mes créations au public. Je l'ai fait et ça a fonctionné. J'ai pu quitter mon emploi et m'y consacrer à 100%. On a maintenant plusieurs expositions, dont deux qui se promènent un peu partout dans le monde. Et il y en a une à Québec, Ludovica Miniland. Oui, quand tu y entres, c'est comme si tu te promenais à travers la planète, mais aussi dans les univers des films et des livres que tu aimes. On a reproduit 33 villes, dont Paris, New York, Montréal, Québec et Chicago. Il y a aussi des clins d'œil au passé, comme l'Empire romain et l'Expo 67. Et on entre dans les mondes féeriques avec Poudlard et le château de Cendrillon. Les visiteurs voient aussi des personnages bien connus, construits grandeur nature. Il y a entre autres des Minions, Mario, Bowser et des personnages de Star Wars. Le but, c'est de faire voyager les gens. Mettre le monde à leurs pieds. Pourquoi Ludovica? Parce que c'est le nom que Samuel de Champlain, celui qui a fondé Québec, voulait donner à une nouvelle colonie. Son projet n'a jamais pu voir le jour. Gilles a nommé sa cité de miniature en hommage à l'explorateur. Comme un terrain de football. Il doit y avoir au moins 20 millions de briques en tout. Et dans mon atelier, j'en ai au moins 8 millions qui attendent d'être utilisés. Est-ce que vous vous sentez comme un géant quand vous marchez dans votre exposition? C'est sûr! Quelle est votre construction préférée? C'est difficile de choisir. L'ensemble des 30 villes qu'on a faites, je l'aime beaucoup. Mais une que j'aime énormément, c'est le pont Golden Gate de San Francisco. Parce que je me demande encore, comment j'ai fait pour construire ça pour que ça tienne? Il mesure 10 mètres de long et est pratiquement suspendu dans le vide. Il a fallu faire un système de câbles pour que ça tienne. Ça fait quoi de réaliser son rêve d'enfant? Je regrette de l'avoir fait si tard. Quand on est jeune, on a peur d'avoir l'air fou. Mais je n'aurais pas dû. Mon rêve n'est pas fini. Il est toujours en évolution. On cherche toujours des choses intéressantes à montrer aux gens. L'exposition Ludovica Miniland est située dans le centre commercial Laurier-Québec, dans la ville de Québec. Elle est ouverte tous les jours. Pour acheter les billets et en savoir plus, tes parents peuvent se rendre sur le site Internet du musée. Selon toi, quelle devrait être la prochaine construction de Gilles? Truc pour ne pas se perdre en forêt. Un texte de Clémence Tessier et La Liberté, paru le 5 janvier 2025 dans Les As de l'Info. Vous avez été très nombreux à réagir à l'histoire de Sam Benastic, ce jeune randonneur qui a été perdu pendant 50 jours dans une forêt de Colombie-Britannique. C'est pour cette raison que j'ai parlé à Geneviève Lavoie, une professeure de survie en forêt. Elle m'a donné quelques conseils pour les amoureux de la nature comme toi qui ne veulent pas se retrouver dans la même situation que Sam. Je te les partage ici pour que tu deviennes toi aussi un as du plein air. N'hésite pas à partager ces trucs avec tes amis ou ta famille. Avant de partir à l'aventure, 1. Préviens quelqu'un de tes plans. Avant de partir, dis toujours à un proche où tu vas, quel sentier tu prends et à quelle heure tu prévois revenir. Même s'il s'agit juste d'une promenade au parc. De cette façon, si quelque chose ne va pas, cette personne pourra alerter les bonnes ressources pour te venir en aide. 2. Vérifie la météo. Consulte les prévisions pour ta destination et prévois des vêtements adaptés. En montagne ou en forêt, la météo peut changer rapidement. Il vaut mieux avoir une couche imperméable ou plus chaude au cas où un imprévu pointe le bout de son nez. 3. Assure-toi d'avoir une carte ou une photo de la carte de l'endroit où tu vas. Même si tu utilises une application GPS, il est toujours pratique d'avoir une carte en papier. Cela te permet de mieux visualiser où tu es et d'anticiper les points importants comme des croisements de sentiers ou des rivières. 4. Essentiel à avoir dans ton sac. 1. Un imperméable pour te protéger contre la pluie ou le froid si tu dois t'arrêter longtemps. 2. Des collations pour te donner de l'énergie. Tu pourrais faire comme notre ami Sam Benastic et apporter du beurre d'arachide. 3. Une gourde d'eau. 4. Un sifflet. Ça peut être très utile pour signaler ta position si tu te perds ou pour éloigner les animaux trop curieux. Si jamais tu perds ton chemin quand même, la première chose à faire est de t'arrêter et de rester calme. Trouve un endroit sécuritaire où tu peux attendre les secours et essaie de te rendre visible. Tu peux aussi utiliser ton sifflet pour envoyer un signal. Maintenant, tu as tous les trucs pour partir en randonnée en toute sécurité et savoir quoi faire si jamais tu te perds. En suivant ces conseils, tu pourras profiter de la nature en toute sécurité sans être pris pour manger le même pot de beurre d'arachide pour les 50 prochains jours. Toi, préfères-tu la ville ou la nature? Nos compagnons célestes. Un dossier paru dans l'édition de décembre 2024 du magazine Les Débrouillards. Nos compagnons célestes. Un point lumineux se déplace dans le ciel étoilé. C'est probablement un satellite. Voici leur portrait de famille. Tous en orbite. Près de 10 000 satellites artificiels tournent autour de la Terre. Équipés d'instruments pour récolter et transmettre des données, ils sont placés sur des trajectoires différentes, les orbites. RADARSAT 2. Le circumpolaire. Pays, Canada, année de lancement 2007. Les satellites circumpolaires tournent autour de la Terre en passant au-dessus des pôles. Situés à moins de 1000 km d'altitude, ils sont utilisés pour produire des cartes. ETELSAT 5, Ouest B. Le sédentaire. Pays France, année de lancement 2019. Les satellites géostationnaires tournent à la même vitesse que la Terre. Ainsi, ils restent au-dessus de la même zone, toujours à 35 786 km d'altitude. Ils transmettent des communications téléphoniques et des émissions de télévision. Ils aident aussi à prévoir la météo. Yaogan 41, l'espion. Pays, Chine, année de lancement 2023. Les satellites militaires transmettent des renseignements aux armées sur les zones de conflit. Ils espionnent aussi les armées ennemies. Nous ne le savons pas avec certitude, mais Yaogan 41 pourrait ressembler à un satellite. Starlink, la famille nombreuse. Pays, États-Unis, année de lancement tous les ans depuis 2019. Starlink est un réseau de plusieurs milliers de satellites qui survolent la Terre à 550 km d'altitude. Ils fournissent Internet partout dans le monde. SEC Odin, le nain, pays Canada, année de lancement 2023. Les nanosatellites ou CubeSat pèsent quelques kilogrammes. Faciles à fabriquer et pas chers, ils sont de plus en plus utilisés pour des projets de recherche. La plupart volent à moins de 700 km d'altitude. La vie sans satellite. Que se passerait-il si tous les satellites cessaient de fonctionner? Les systèmes de localisation GPS ne fonctionneraient plus, ce qui compliquerait la vie des livreurs, des sauveteurs, des pilotes d'avion et des capitaines de bateaux. Un Canadien sur 10 ne capterait plus la télévision. Les prévisions météo seraient moins fiables. Il serait plus difficile de communiquer avec des personnes situées dans des pays lointains. Dans certains endroits isolés, les habitants seraient coupés du monde. On ne pourrait plus prendre de photos de la Terre à partir de l'espace. Ces images servent, entre autres, à mesurer la hauteur des lacs, prévoir les récoltes ou encore surveiller la déforestation. Petit à petit, les ordinateurs du monde entier se désynchroniserait. Internet ralentirait. Le commerce mondial aussi. Les réseaux électriques seraient perturbés, ce qui causerait des pannes d'électricité. Congestion spatiale. L'espace est vaste et deux satellites ont très peu de chances de se croiser. Mais le nombre de satellites augmente de plus en plus et les probabilités de collision aussi. En 2009, un satellite de télécommunication américain a percuté un vieux satellite russe au-dessus de la Sibérie à plus de 41 760 km/h. La collision a pulvérisé les deux engins et généré des milliers de débris. Les agences spatiales sonnent l'alarme. Entre les satellites actifs ou inactifs et les débris spatiaux, l'espace est de plus en plus encombré. La Station spatiale internationale et les satellites doivent régulièrement manœuvrer pour éviter des débris. Plusieurs compagnies comme l'entreprise ClearSpace développent des projets afin de nettoyer l'espace en récupérant les débris spatiaux. Que faire? De nos jours, les satellites n'ont plus le droit d'errer sans fin. Une fois leur mission terminée, ils utilisent leur dernière réserve de carburant pour se rapprocher de la Terre afin d'entrer dans l'atmosphère et de s'y désintégrer. Ce processus doit avoir lieu au plus tard, 25 ans après le début de la mission. Les satellites géostationnaires, eux, s'éloignent vers une orbite cimetière située à plus de 36 000 km d'altitude. Dans les coulisses de la fabrication d'un satellite, avec Marie-Ève Paré. Quel est ton métier? Marie-Ève Paré. Je suis ingénieure chargée de projets à l'Agence spatiale canadienne. Je m'assure que les satellites ne coûtent pas trop cher, qu'ils sont prêts à temps et de bonne qualité. En ce moment, je travaille sur deux projets. Le premier s'appelle Avenir. Ce satellite mesurera différents éléments des nuages en haute altitude. Ces mesures aideront à mieux comprendre la formation des nuages de glace, en particulier au-dessus de l'Arctique, et les changements climatiques. Elles serviront aussi à analyser certaines catastrophes comme les tempêtes, les feux de forêt et les éruptions volcaniques. Le second projet, Garde-feu, est composé de plusieurs satellites qui détecteront les feux de forêt et calculeront leur intensité, c'est-à-dire leur température et leur vitesse de déplacement. Ça aidera les pompiers dans leur travail. L'Agence spatiale canadienne fabrique-t-elle des satellites? Non. Nous commandons les satellites à des compagnies. Celle-ci achète les différents morceaux, comme les panneaux solaires, l'ordinateur de bord et le corps de l'engin, qu'on appelle le bus, puis les assemble. Une fois construit, le satellite est soumis au chaud, au froid et aux vibrations. Ainsi, la compagnie s'assure qu'il survivra au lancement et à l'environnement spatial. Combien de temps faut-il pour fabriquer un satellite? Les satellites comme Starlink sont fabriqués très rapidement en série. Plusieurs dizaines sortent de l'usine chaque semaine. Pour certains satellites scientifiques, il faut plus de 10 ans. Le temps de développer les instruments, de les adapter pour qu'ils rentrent dans le satellite et de les tester pour être sûr qu'ils puissent aller dans l'espace. Comment envoie-t-on un satellite dans l'espace? Le satellite est expédié vers un site de lancement. Là, il est placé tout en haut d'une fusée, sous la coiffe, avec d'autres satellites. Généralement, il y a un gros satellite ou deux moyens et plusieurs petits. Ensuite, la fusée décolle. Une fois dans l'espace, la coiffe s'ouvre et les satellites sont relâchés à l'aide d'explosifs dans un ordre établi à l'avance. Enfin, les satellites allument leurs moteurs pour aller sur la bonne orbite. Qu'est-ce que tu aimes dans ton métier? Je suis une passionnée de l'espace, alors c'est une chance pour moi de travailler à l'Agence spatiale canadienne. Je croise même des astronautes en allant me chercher un café. Je suis aussi très interpellé par l'environnement. Comme les deux projets sur lesquels je travaille aideront le Canada à faire face au changement climatique et à être plus résilient, j'ai le sentiment de faire une différence. Et puis, j'aime beaucoup travailler en équipe avec des personnes qui ont des emplois vraiment différents du mien. C'était Gilbert. À une prochaine lecture.
C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines. Merci à toute l'équipe.